Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous. Après les jeunes indignés et les femmes, c'est au tour des retraités espagnols de descendre dans la rue pour dire leur colère. Ils s'opposent en effet aux mesures prises par le gouvernement conservateur pour réformer le système des retraites. Si en France, le problème démographique semble résolu, ici, le nombre de personnes âgées explose et celui des actifs stagne. Mais pour les retraités, pas question d'être sacrifiés sur l'autel des restrictions budgétaires. Leur fronde ne fait que commencer. Reportage à Madrid de Diane Cambon.
Deux fois par semaine, Rosario rejoint ses amis dans un café du centre de Madrid après son cours de yoga. Ancienne maîtresse d'école, cette dynamique espagnole de 67 ans se considère comme une privilégiée avec sa retraite de 1800 euros mensuels. Et pourtant, elle n'a pas hésité à manifester contre les réformes du gouvernement de Mariano Rajoy.
On ne demande pas une hausse spectaculaire, juste augmenter les retraites les plus basses, qu'elles atteignent le seuil du salaire minimal autour de 730 euros, et un peu de dignité pour les plus basses retraites.
L'exécutif conservateur a mis le feu aux poudres en annonçant une hausse annuelle des retraites limitée à 0,25%. Les pensions sont désormais indexées sur la croissance économique et non plus sur l'inflation. Résultat, les retraités risquent de perdre du pouvoir d'achat si les prix augmentent. Et pour certains, comme José Martin, âgé de 80 ans, les fins de mois ne sont pas toujours faciles.
Moi, je dépense juste ce que je peux. J'ai travaillé toute ma vie. Et attention, j'ai cotisé 48 ans et elle est toute petite, ma retraite. C'est le minimum, environ 600 euros par mois.
Mais pour les conservateurs au pouvoir qui doivent régulièrement puiser dans le fonds de réserve de la sécurité sociale pour payer les retraites, il faut aller encore plus loin pour garantir la viabilité du système. L'année prochaine, les pensions seront calculées à partir de l'espérance de vie et le départ à la retraite, actuellement à 64 ans, va être repoussé à 65 ans et 6 mois. Des mesures qui ont été proposées par un comité d'experts. Raphaël Pampillon, économiste de l'université madrilène CEU San Pablo, approuve ces réformes.
C'est une solution évidente, celle de rallonger la vie active au-delà même de 70 ans. Car en Espagne, l'espérance de vie atteint désormais les 83 ans. Et il est évident que l'on va vivre de plus en plus longtemps.
Pour ce professeur, la situation est tellement alarmante que le gouvernement n'aurait même pas dû annoncer une hausse des retraites.
Il n'y a aucun moyen de maintenir à flot le système sans geler les pensions. Selon moi, elles n'auraient pas dû augmenter de 0,25%, car ceux qui vont cesser la vie active prochainement ont beaucoup cotisé et recevront une forte retraite. En Espagne, le montant de la retraite représente 80% du salaire de base. C'est le plus fort taux d'Europe et c'est beaucoup trop d'argent.
Mais pour les milliers de retraités qui manifestent ces jours-ci contre une précarisation de leurs revenus, c'est le système public qui est mis en danger. Comme le témoigne Juan, ancien comptable.
Il y a une volonté claire de privatiser le système. Le gouvernement est en train de nous conseiller d'épargner pour notre retraite privée, pour que l'État cesse de prêter assistance aux gens. Ce n'est plus un État au service du public, mais au service du capital.
La colère des retraités est d'autant plus palpable que depuis la crise économique de 2008, ils ont joué le rôle de sauveurs financiers au sein du cocon familial. C'est le cas de Juan qui soutient son fils, pourtant âgé d'une trentaine d'années.
Il s'agit d'une charge sociale qui incombe désormais aux retraités. C'est nous qui aidons les jeunes au chômage. Par exemple, nous, on aide notre fils, qui touche un salaire de rien du tout, à peine le SMIC, pour un travail à mi-temps. Et on doit lui venir en aide, et c'est ainsi pour plus de la moitié des familles.
Dans 30 ans, l'arrivée à la retraite de la génération du baby-boom espagnol devrait aggraver la situation. Avec un faible taux de natalité et une grande espérance de vie, l'Espagne est confrontée à une bombe à retardement démographique.
De la colère également au Royaume-Uni, et c'est ce que ressentent de plus en plus de Britanniques alors que les termes de la négociation sur le Brexit se précisent. Dans un an, presque jour pour jour, le 29 mars 2019 exactement, le Royaume sera en principe sorti de l'Union européenne. Mais les sujets de Sa Majesté ont pour certains l'impression d'avoir été trompés, comme le démontrent plusieurs sondages récents. Des marches anti-Brexit ont donc eu lieu ces derniers jours. Elles se sont conclues notamment par un happening dans le quartier de Lambeth, juste en face du Parlement lundi soir. C'est le reportage de Marie Billon.
Quelques dizaines de militants qui agitent des drapeaux européens, d'autres coiffés de bérets ou portant des masques de même couleur et qui chantent en chœur « We're not gonna Brexit anymore », on ne va finalement pas sortir de l'Union européenne. Plus un souhait qu'une réalité, alors pour se faire remarquer sur le passage clouté du pont de Lambeth près du Parlement, ils s'installent et bloquent le trafic.
Ça, ce n'est qu'une petite manifestation, mais on en organise beaucoup plus en dehors de Londres. C'est important de perturber la vie quotidienne pour montrer à quel point elle le sera pour de vrai quand ou si nous sortons de l'UE. C'est un symbole.
Certains automobilistes prennent des photos, sourient et encouragent les manifestants. D'autres klaxonnent et ne cachent pas leur énervement. Rapidement, un faux Boris Johnson prend le micro et mène les militants vers le 10 Downing Street au son d'un détournement de la chanson Wrecking Ball qui devient Brexit Ball. Le ministre des Affaires étrangères est souvent visé par les militants. Boris Johnson est considéré comme le facilitateur en chef du Brexit. Sa personnalité, mais surtout ses méthodes, sont critiquées. En février, les europhiles ont singé son fameux bus rouge. Lors de la campagne du référendum en 2016, ce véhicule flamboyant parcourait le pays, véhiculant ce discours. Si le Royaume-Uni quittait l'Union européenne, les services de santé pourraient gagner 350 millions de plus chaque semaine. Le mois dernier, un autocar du même vermillon a donc sillonné la Grande-Bretagne avec écrit sur son flanc le coût du Brexit, 2000 millions par semaine. Ce sera le prix à payer selon notamment le député libéral-démocrate Tom Brake.
Dans une démocratie, on a le droit de changer d'avis. Il y a eu un vote le 23 juin 2016, mais maintenant nous en savons plus et nous savons que ça va coûter cher à la Grande-Bretagne. Disons que ça va coûter, et c'est d'après les rapports du gouvernement, 2000 millions de livres par semaine parce que l'économie de la Grande-Bretagne va être moins puissante parce que nous sortons de l'Union européenne.
Tom Brake et les libéraux-démocrates se battent ouvertement contre le Brexit. Ils ont toujours été de farouches partisans de l'Union européenne, mais ces derniers mois, dit-il, le vent a tourné en leur faveur.
Des gens qui travaillent dans des entreprises, des gens qui travaillent à l'université, des gens qui travaillent dans l'agriculture, par exemple, ont maintenant rencontré des gens sur qui le Brexit a déjà eu un impact. Et donc, il y a des histoires personnelles qui vont influencer, peut-être plus que les arguments économiques. À mon avis, c'est de cette façon que nous allons gagner la seconde campagne du Brexit.
Si Tom Brake parle de campagne, c'est que les militants anti-Brexit ne se contentent plus de manifester ou de créer des groupes locaux dispersés. Depuis plusieurs semaines, ils travaillent de concert. Will Dry a 21 ans. C'est devant Westminster que nous le rencontrons, tout près des bureaux qu'il partage depuis la mi-mars avec 5 autres organisations anti-Brexit. Il a reçu tout le soutien de Tom Brake et de son parti. Will a créé l'an dernier Our Future, Our Choice, notre avenir, notre choix, un groupe de pression destiné aux jeunes. Et son histoire personnelle est justement assez exceptionnelle pour qu'il veuille la partager avec le plus de gens possible.
J'ai voté Leave pour le Brexit et depuis, je me suis rendu compte de la catastrophe que ce serait pour notre pays. Il n'y a pas eu de prise de conscience soudaine et brutale. C'est plutôt une accumulation de mauvaises nouvelles qui m'ont fait réaliser que je n'avais pas voté pour ça, que je n'avais pas voté pour un accès limité au marché commun, par exemple. Quand les conséquences du Brexit apparaissent clairement, tout le monde a le droit de changer d'avis.
Will fait aussi partie de Remainer Now, un groupe qui rassemble ceux qui regrettent d'avoir voté Brexit. Leur nombre n'est pas certain. Sur Twitter, il y a près de 6000 abonnés. Mais les Britanniques ont-ils vraiment changer d'avis, comme dit Will. Les études d'opinion montrent que depuis mi-2017, une majorité des personnes interrogées estiment que voter Brexit était une erreur. Selon un sondage YouGov en janvier 2018, 46% voteraient aujourd'hui pour rester dans l'Union européenne contre 42% pour la quitter. Alors Will a mis ses études de sciences politiques entre parenthèses pour se battre à plein temps contre le Brexit.
J'ai rejoint désormais la majorité des gens de mon âge qui pensent que le Brexit est une idée terrible. Le but de Our Future, Our Choice est de convaincre nos parents, nos grands-parents, mais aussi les politiques que nous ne voulons pas du Brexit. Nous voulons que le Parlement donne au peuple le droit de voter sur l'accord que Theresa May aura négocié, que ce soit nous qui décidions si c'est assez bien.
Will se bat non pas pour un second référendum, ce mot est désormais au nid, mais pour une consultation populaire sur le deal final. Hashtag Final Say est un de ces mots-clés qui fleurissent sur les réseaux sociaux. Hashtag Stop Brexit aussi. D'autres sont plus énigmatiques, mais non moins populaires. Hashtag FBPE, l'acronyme de Follow Back Pro EU, en clair, suivez-moi, je suis pro-européen, ou encore hashtag Watton, We are the opposition now, c'est nous l'opposition désormais. Et comme tous les jeunes, Will utilise plusieurs de ces mots-clés, mais ce n'est pas tout. C'est ici qu'il affine sa stratégie, Milbank Tower. En 2016, la campagne Vote Leave y avait son QG. C'est désormais celui de 6 des organisations principales qui se battent contre le Brexit, tel que le gouvernement le prépare. Elles ont décidé d'unir leurs forces et une partie de leurs moyens financiers.
Oui, bonjour, nous sommes ici dans notre nouveau bureau, ici à, jusqu'au côté de Westminster. Il y a plusieurs des organisations qui sont de côté pro-européen. Juste au fond, il y a l'organisation Open Britain. Là-bas, il y a mes collègues d'organisation The European Movement et juste ici, il y a aussi des autres collègues de mouvement Our Future, Our Choice, donc le mouvement des jeunes.
Tom Cole est le directeur d'Open Britain, le groupe qui est la continuité de la campagne officielle anti-Brexit lors du référendum. Il travaille aux côtés d'une vingtaine de volontaires et de salariés, des jeunes et des plus âgés, dans ses locaux à la décoration épurée. Pas de drapeau européen, juste quelques affichettes et un grand poster de Winston Churchill.
Depuis 2016, beaucoup de gens se sont dit qu'ils sauveraient le pays du Brexit. Et depuis également, de nombreux groupes de pression se sont formés et ça fait longtemps qu'on essaie de travailler ensemble.
Les militants espèrent donc que le Parlement donnera le dernier mot aux Britanniques d'ici février 2019. Et s'ils rejettent l'accord obtenu par Theresa May, tout le monde est persuadé dans ce nouveau QG de campagne que les 27 réintégreront avec enthousiasme le Royaume-Uni.
Il a été complètement oublié jusque dans son propre pays et pourtant, aux États-Unis, l'Italien Mario Savio a été l'un des symboles du mouvement étudiant qui s'est ensuite étendu dans toute l'Europe. Car sur le campus de Berkeley, l'équivalent du mai 68 français a commencé 4 ans plus tôt, Cécile Debarge.
Mario Savio s'est d'abord illustré comme génie de la physique. Encore lycéen, ce fils d'immigrés siciliens de la province de Caltanissette détecte des erreurs dans les grilles de l'US Navy qui étudiait la propagation du son en eau profonde. Une découverte qui lui ouvre les portes du plus grand campus américain de l'époque, Berkeley, en Californie. Nous sommes en 1964 et l'Amérique gronde. Guerre du Vietnam, maintien d'un système ségrégationniste contre les Noirs américains, une large vague de contestation estudiantine embrase Berkeley. Au mois d'octobre, un étudiant est arrêté par la police pour avoir osé promouvoir sur le campus l'activité d'un groupe politique qui se bat pour le droit de vote des Noirs américains dans les États du Sud. Mario Savio s'interpose, il retire ses chaussures pour ne pas abîmer un bien de l'État américain et monte sur la voiture de police pour faire libérer son camarade. Il scande 2 mots, free speech, et deviendra le leader du Free Speech Movement, qui demande le droit pour les étudiants de s'exprimer librement. Une position que ne partage pas le directeur de l'université qui explique que Berkeley est une machine et qu'il faut en suivre les règles. Mario Savio prononce alors le plus célèbre de ses discours, souvent comparé à celui de Lincoln à Gettysburg.
There's a time. Il arrive un moment où le fonctionnement de la machine est tellement odieux et te fait sentir si mal que tu ne peux plus en faire partie, même en restant passif. Il n'y a alors plus qu'à mettre nos corps entre les roues et les engrenages, sur les leviers, sur l'appareil et tout arrêter.
Nous sommes alors en décembre 1964 et sans le savoir, le fils d'immigrés italiens qui a grandi dans le Queens à New York ouvre la voie à un mouvement de révolte qui se répandra jusqu'en Europe. Mario Savio, lui, sera mis sous surveillance par le FBI et emprisonné pendant 7 ans. Quand il sort de prison, il vit de petits boulots pour survivre et meurt à 54 ans d'un infarctus.
Thank you.
Bonjour Eve Minot.
Bonjour Catherine.
Alors aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à cette question. L'Europe est-elle en train de glisser doucement vers l'athéisme? Et ça tombe bien Eve, parce qu'une étude toute récente, binationale, britannique et française, montre à quel point la jeunesse européenne se détourne en fait de ses racines religieuses et spirituelles.
Oui, c'est en effet l'un des constats de cette enquête menée en France donc et au Royaume-Uni. En France par l'Institut d'études catholiques de Paris et au Royaume-Uni par l'Université catholique St. Mary's à Londres. Elle s'appuie sur les données des deux dernières vagues de l'enquête European Social Survey réalisée en 2014 et 2016. Et les deux institutions sont formelles après avoir interrogé un échantillon de jeunes âgés de 16 à 29 ans dans 21 pays européens plus Israël. La majorité d'entre eux se déclarent sans religion. C'est-à-dire qu'ils n'estiment pas appartenir à une communauté religieuse, même si les résultats diffèrent énormément d'un pays à l'autre.
Alors, il y a quand même de forts contrastes dans cette Europe, des destins très opposés, la Pologne d'un côté, la République tchèque de l'autre.
Oui, la Pologne parce qu'elle est le pays où le plus de jeunes Européens se revendiquent d'une religion, 83% des sondés exactement, tandis qu'en République tchèque, au contraire, il serait 91% à se déclarer comme ne s'identifiant à aucune religion. Suivent l'Estonie, la Suède et les Pays-Bas, par exemple, parmi les pays les moins religieux. La France, elle, se situe dans le premier tiers du tableau des athées, tout comme le Royaume-Uni, avec respectivement 64 et 70% de non-croyants chez les 16-29, c'est-à-dire bien plus qu'en Allemagne, où ils ne sont que 45%.
Alors, parmi ces jeunes Européens religieux, on distingue une majorité de chrétiens, Eve.
Une majorité, oui, mais qui ne cesse de diminuer. Selon Stephen Bullivant, l'un des auteurs de l'étude, l'Église catholique en particulier ne cesse de perdre des jeunes depuis les années 40, ce n'est donc pas nouveau. Il serait encore 25% en France à déclarer appartenir à la communauté chrétienne, parmi lesquels 23% de catholiques. 10% des jeunes français se réclament de l'islam, le même chiffre qu'en Belgique et en Autriche. Quant aux jeunes des pays nordiques, sans surprise, la plus grande communauté religieuse se trouve chez les protestants, le luthéranisme étant religion d'État. En Finlande, en Norvège et au Danemark, plus de 30% d'entre eux s'identifient comme religieux.
Des jeunes donc de moins en moins religieux, mais aussi moins pratiquants quand ils sont encore croyants.
Oui, la pratique concerne aujourd'hui plus de 10% des jeunes interrogés seulement dans 3 des pays étudiés. Il s'agit de la Pologne à 39%, du Portugal 20% et de l'Irlande 15%. À l'inverse, dans le tiers des pays sondés, plus de la moitié des personnes interrogées n'assistent jamais à un office religieux. C'est le cas par exemple de la République tchèque, des Pays-Bas, de l'Espagne, du Royaume-Uni, mais aussi de la Belgique, de la France et de la Hongrie.
Et paradoxalement, Eve, les jeunes qui continuent à pratiquer sont plus fervents.
Voilà, donc moins religieux, moins pratiquants, mais plus fervents. Les jeunes sont plus rares à se revendiquer d'une communauté, ils sont donc plus motivés. En République tchèque, par exemple, souvent pris en exemple dans l'étude, ils ne sont que 7% à se déclarer religieux, mais parmi eux, 1 sur 4 va à la messe chaque semaine et 1 sur 2 prie sur la même période. Ce scénario tchèque préfigure, selon les auteurs de l'étude d'ailleurs, de l'évolution future de la religiosité des jeunes en Europe, moins nombreux donc et plus fervents.
Alors en réalité, Eve, si on a bien compris, c'est l'héritage culturel religieux qui est aujourd'hui ignoré par les jeunes Européens. Ils ne baignent plus du tout dans cette culture.
Voilà, on se réclame aujourd'hui moins du christianisme, du judaïsme, de l'islam, uniquement parce que ses parents ou ses grands-parents étaient ou sont eux-mêmes croyants. Aujourd'hui, soit les jeunes ne se sentent tout simplement pas concernés, soit au contraire, ils revendiquent un engagement individuel, volontaire, une véritable démarche, ce qui donne l'impression parfois d'une religion exercée de manière plus fondamentaliste. Selon les auteurs de cette étude, les jeunes ne semblent globalement pas faire confiance à l'institution religieuse pour les représenter, une grande majorité d'entre eux en tout cas. Ils ne sont pas non plus spécialement anti-religieux en réalité, ils sont plutôt indifférents, voire même carrément ignorants du fait religieux, même s'ils sont encore nombreux à affirmer croire en quelque chose de bienveillant dans l'univers.
Voilà, Eve Minot, très bienveillante, merci Eve, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Merci de nous avoir suivis à la réalisation. Il y avait bien sûr Françoise Grelot. Vous pouvez nous retrouver sur rfi.fr et sur notre page Facebook. Ne zappez pas dans quelques instants les infos.